Voilà.
On fait des essais micro. Ok. Salut tout le monde.
Bonjour.
Ça va? Ça va bien?
Oui.
Tout le monde a les yeux un peu collés?
Non,
ça va, vous êtes bien là, ouais. Bon, très bien. Merci à tous d'être là ce matin à la com. C'est une première en plus. J'espère que c'est une première, qu'on appellera beaucoup d'autres. Il y a eu beaucoup de choses ici à la comédie, du théâtre, de la danse, de la musique, des cours de théâtre, des soirées à thème, des choses comme ça. Mais il n'y a jamais eu de rencontre avec un réalisateur de cinéma, néanmoins scénariste aussi. Donc merci infiniment à vous d'être là, puisque j'espère encore une fois que ça veut dire que ça va entamer sur une dynamique sympa et qu'on va se dire « Allez, faut refaire ça le dimanche matin à la comédie, c'est sympa de faire des trucs comme ça ». Voilà, vous êtes là pour essuyer les plâtres de cette première rencontre ici au Théâtre de la Comédie. Merci infiniment, j'espère que vous serez force de questions, de débats, de discussions, d'échanges avec Alexandre Charlot, le réalisateur. Cette matinée n'aurait évidemment pas été possible sans l'équipe de Cour et 49. Bravo. Les tarés, bravo. Les fondus, les tarés de Sinoche de Cour et 49, bravo. Vincent, Johan, l'équipe. C'est vrai que c'est une, comme on dit, une jeune production associative, mais qui est en train de monter en flèche, en flèche, en flèche. Et c'est pour ça aussi que je suis doublement content que ça se passe ici, avec nous, au Théâtre de la Comédie. Parce qu'encore une fois, quand il y a des gens et des dynamiques qui se mettent en place comme ça, c'est là où il faut se dire, ouh, ceux-là, je sens qu'il va y avoir des choses avec eux qui vont se faire. Donc voilà, je vais commencer à m'accrocher à eux et à pas les lâcher. Merci les gars d'avoir choisi la comédie pour faire cette rencontre ce matin. Et puis je vous laisse aussi entre les mains expertes et divines, et la voix experte et divine.
Quelle expression ?
Si, Laurence. D'Olivier, qui va animer cette première rencontre. Je vous souhaite à tous un très beau et un très joli moment en cette matinée. Salut, parce que je suis obligé de me tirer. Donc je vais voir juste les débuts. Et puis, je laisse Vincent, le micro
à Vincent.
À monsieur Vincent, qui va présenter notre invité.
Merci Pascal. Merci de ton accueil, Pascal, avant que tu t'en ailles, parce que après, tu vas partir. Ah, tu restes quand même 2 minutes avec. C'est chouette. Donc merci à tous d'être venus. Je remercie Pascal pour l'accueil qui nous a été réservé ici. On voulait un petit peu changer de... On organise aussi quelques rencontres dans l'année. Et on avait organisé une rencontre avec Stéphane Moisé l'année dernière. On avait organisé une masterclass avec une chef monteuse. Et puis cette année, on voulait changer un peu de registre et on voulait quelque chose de différent. Et on a pu avoir les contacts nécessaires et suffisamment bien placés pour qu'on ait Alexandre ce matin. Donc on est content de le recevoir. C'est un cinéma, ce qu'on va dire, populaire, mais populaire dans le bon sens du terme. Voilà, et on est content d'avoir Alexandre, donc je vais vous demander de l'accueillir. Allez, viens Alexandre. Voilà. Si tu veux bien, bien sûr. Donc moi, je remercie Alexandre d'avoir pris la peine de venir ce matin avec nous. Alexandre est très occupé, écrit beaucoup en ce moment. Si, on va lire. Non, tu m'avais dit qu'il fallait.
J'étais occupé à dormir ce matin.
Donc voilà, on leur remercie sincèrement d'être venus et de nous accorder ce petit moment. Je vais laisser la parole à Olivier qui est chargé de l'animation de cette matinée. Et puis on a un petit film à vous montrer avant. Donc je te passe la parole, Olivier, et je te remercie. Donc, ah oui, pardon, c'est assez débridé comme système. Si vous avez envie de vous exprimer, tout ça, moi je suis là, je navigue et puis je vous passe le micro. On n'hésite pas à ouvrir le débat s'il y a des choses qui vous intéressent. Des questions, on n'attend pas la fin pour les poser, parce que sinon ça va prendre du temps et du temps, mais on y va. Si vous avez tout de suite, vous m'appelez et puis je vous passe le micro.
Il faut appeler président voilà, Malaisie. Voilà,
président, c'est
bon. Voilà, président.
Voilà, merci à tous.
Merci Vincent. Je voudrais savoir déjà si c'est un exercice auquel tu te prêtes de temps en temps, Alexandre, comme ça, à la manière d'un masterclass, de rencontrer le public, d'écouter les questions, d'y répondre.
Je le fais pas trop souvent. Je l'ai fait par le passé quand j'étais au Guignol, par exemple.
Bon, moi j'aime bien parce que j'aime bien parler de moi. Mais non, mais je veux pas faire de la démagogie, mais souvent les questions du public sont, je dis pas qu'elles sont plus intéressantes que celles des journalistes, mais souvent si en fait, parce que c'est pas convenu. Et donc je l'ai fait effectivement quand j'étais au Guignol, on faisait quelques rencontres. C'était vraiment super sympa parce que du coup on avait le retour direct. Et puis quand on fait le pour notre dernier film par exemple, je l'ai fait deux trois fois. On a fait une tournée. Alors le truc qui est un peu chiant, excusez-moi pour mon vocabulaire, mais le truc qui est un peu chiant, c'est que la distribution vous fait faire une tournée, donc. En fait, vous présentez le film et puis vous passez dans un autre cinéma. Vous faites, je ne sais plus, 5 cinémas dans la soirée. Mais à la fin, comme c'est le dernier cinéma, vous avez le droit à un débat. Alors, ça ne dure que 20 minutes, mais bon. Et c'est assez sympa parce que du coup, on a les retours des gens. Alors, les retours sans filtre, hein, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. Donc, il faut se débrouiller avec ça. Mais moi, j'aime bien, en fait.
Si tu peux parler, Vincent, c'est bien aussi.
Bien, le CV d'Alexandre Charlot commence plutôt bien. Déjà dans l'humour, voire le cynisme, avec des piges parues pour Charlie Hebdo. Il y a forcément une histoire avant d'arriver pigiste dans ce temple de l'humour noir. Tu étais lecteur des provocateurs de Charlie?
Est-ce que j'étais lecteur? Oui, quand même, oui.
C'est il y a quelques années.
J'étais lecteur et puis mon grand frère me racontait... Rakiri et tout.
Ouais.
J'étais trop jeune, mais
t'as pas connu. Ouais.
Et non, en fait, le truc, c'est que j'ai eu envie d'écrire vers 23 ans, je sais plus, un truc comme ça. Enfin, à mon retour d'armée, quoi, j'avais envie d'écrire sur de la politique. J'avais envie de donner mon avis, en fait. Et puis je me suis mis à leur écrire et puis ils m'ont publié au courrier des lecteurs.
D'accord.
Et puis quand je me suis installé à Paris, je suis allé les voir. Alors, et puis ils m'ont fait piger. Alors c'était vraiment des petits trucs. Hein. En plus, j'écrivais sous un pseudo parce que comme j'étais technicien vidéo à l'époque et je travaillais aussi à l'Assemblée. Alors c'était la préhistoire de la chaîne de l'Assemblée. Alors j'avais pris un pseudo. Je me suis dit si je me fais gauler par ça va pas aller. Donc alors j'écrivais vraiment des petits trucs. Et en fait, je me suis aperçu que c'était pas du tout mon truc. C'était une horreur. Pour pondre un feuillet, je suais sang et eau. Et finalement, j'ai fini par arrêter. Enfin, en fait, on m'a viré.
Non, c'était bien arrêté. J'ai décidé de partir.
Et j'ai décidé de partir. Non. Et puis, ma femme qui n'est pas là ce soir, mais à qui je dois tout, m'a dit, mais pourquoi tu n'envoies pas tes textes au Guignol de l'Info? Et puis, en fait, je suis en train de déborder sur ta...
Non, mais c'est extrêmement intéressant. Non, non. Juste pour revenir à Charlie deux secondes, ce qui t'intéressait, c'est le côté journalisme?
Non,
le côté
c'était politique.
Ouais.
En fait, j'aime pas trop cynisme, je me trouve pas cynique, en fait. Mais
Charlie peut l'être.
Ouais. Ouais, non, parce que j'aime beaucoup la caricature.
Ouais.
En fait, moi, c'était la politique. Et je me suis aperçu qu'en fait l'écriture journalistique c'était pas du tout mon truc. C'est là où voilà.
Ouais,
c'est comme quand j'ai fait des études audiovisuelles, je voulais être ingénieur du son. Et puis quand j'ai commencé à travailler le son, je me suis dit ah non, ça va pas le faire du tout. Et le son c'est pas mon truc. Donc j'ai fait de l'image. Après je me suis aperçu que l'image c'était pas trop mon truc non plus. Résultat, j'ai fait autre chose. Mais c'était plus mon truc. Et là, en fait, l'écriture journalistique, non, c'est pas aller vérifier les sources, appeler. Enfin, ça m'intéressait pas, quoi. Moi, j'avais envie d'écrire, voilà. Mais je ne savais pas quoi faire. Et du coup, j'ai envoyé mes textes à. Donc, ma femme me dit, envoie tes textes au Guignol de l'Info. Et je regardais pas les Guignols de l'Info. Je ne regardais pas. Je regardais pas la télé. Et puis, je lui ai dit, écoute, ça va. Canal, si t'es pas introduit, si t'as pas un réseau, c'est pas la peine. Et en fait, donc j'ai pris l'adresse qu'il y avait dans l'annuaire. Et ils m'ont répondu, parce qu'ils cherchaient tout le temps des auteurs extérieurs pour alimenter en sketch. Et tout.
On est dans les années 90, c'est encore l'esprit Canal à l'époque.
On est en 95, je crois. 95. Ou fin 94, 95. Et donc ils cherchent des gens, donc ils me font travailler à la maison, quoi, pour voir si j'y arrive. Et en fait, je me souviens la première fois où je me suis mis devant mon petit Mac classique, mon petit Mac tout petit, et que j'ai tapé Chirac 2 points, Balladur 2 points, et ben, je me suis aperçu que dialoguer, c'était mon truc. Attention, c'était pas bien, hein, mais je me suis aperçu que c'était mon... C'était là, on a un pianiste avec nous, là. C'était mon langage, en fait. Voilà. Et puis, j'ai eu de la chance, parce qu'il y a deux auteurs qui sont partis en... à la fin de la saison 95-96, Benoît Delépine et Jean-François Alain. Et du coup, comme ils avaient besoin de gens, ils m'ont dit « Est-ce que tu veux bien faire une période d'essai ?» Donc, j'ai eu un premier CDD d'un mois. Et puis, j'ai réussi à caser quelques trucs. Alors, j'étais content. Après, ils m'ont prolongé. Et puis en décembre, je faisais partie de l'équipe. Donc il y avait Gassio. Et il y avait un autre, parce que moi je pensais qu'il n'y avait que Gassio, il y avait un autre qui s'appelle Franck Magnier, et qui est mon comparse depuis 20 ans.
C'était la rencontre.
C'est-à-dire qu'en fait, moi j'écris pas tout seul en fait. Enfin, j'écris et je réalise pas tout seul. On fait tout à deux avec Franck. Et on s'est connus au Guignol.
C'est un grand coup de cœur réciproque, un coup de foudre réciproque ?
Non. Non, en fait, c'est une nécessité au départ. C'est-à-dire que les Guignols, c'était un enfer. Parce que on reprenait une émission qui avait été médiatisée et qui avait été mythifiée autour des trois personnes, Gassio, Delépine, Alain, qui étaient en plus de la même génération. Et en fait, c'était devenu un truc énorme. À tel point que Franck, qui a fait la dernière année, donc l'élection avec Chirac et tout, n'a pas été médiatisé. Donc c'était vraiment le truc, c'était voilà, les trois, machin. Là. Donc je me souviens très bien, hein, quand j'arrive au Guignol pour mon premier jour, j'avais sous le bras les Inrecuptibles, qui avaient fait tout un papier, tout un dossier, je sais pas quoi, et qui disaient qu'en gros, les prochains, ça allait être nul. Donc j'arrivais à Canal avec mon truc sous le bras et puis qui disait de toute façon tu seras nul. Donc on avait une pression pas possible et il se trouve qu'en fait Franck il a 3 ans de plus que moi, donc on est à peu près de la même génération. Gassio est plus vieux, hein, il a 10 ans de plus. Et puis très rapidement, en plus Gassio lui il écrivait un édito pour une autre émission et tout. Très rapidement on s'est retrouvés tous les deux et puis on s'est dit bon. C'est tellement dur d'écrire des sketchs, de trouver des idées, parce qu'il faut trouver des idées avant d'écrire un sketch. On va le faire à deux. Et donc, on a commencé à... On ne se connaissait pas, hein. C'est-à-dire qu'on s'est frotté l'un à l'autre avec cette nécessité. Donc, on se retrouvait au bistrot, et puis on cherchait des idées, machin, nan, nan. Parce qu'en fait, juste, on écrivait 8 pages par jour pour le direct, et par semaine, il fallait qu'on écrive 4 sketchs. On enregistrait un peu comme un cours, d'ailleurs.
Ça présente des heures de travail, on ne se rend pas compte.
Bah, les 4 sketchs, c'était l'enfer, parce que déjà une journée, c'était fatigant. Mais alors, trouver 4 idées, ça paraît pas beaucoup, hein, mais trouver 4 idées, c'était vraiment dur. Et donc, on s'est mis à écrire ensemble. Et quand on est parti, en fait, c'est comme ça que nos égos se sont frottés, et qu'à la fin, il n'y avait plus d'égo. Donc maintenant, oui, depuis 20 ans, on s'entend super bien, quoi.
Tout le travail que tu as produit depuis ce milieu des années 90 est co-signé avec Franck Magnier. Absolument tout.
Ouais, on co-signait les sketchs. On était un peu les Lennon McCartney du sketch. Hein.
Oui,
on co-signait tout. C'est-à-dire qu'elle a... Mais même aujourd'hui...
Jusqu'à aujourd'hui, voilà, ouais, c'est ça.
On ne sait plus qui a l'idée de quoi... parce qu'en général, quand il y en a un qui a une idée au départ, l'autre bondit dessus, et puis ça fait un ping-pong, et voilà, quoi. Donc... oui, je peux éventuellement dire c'est lui qui a eu l'idée au départ, mais après c'est vraiment ouais, on a tout co-signé.
Est-ce que l'association Courrier 49 avait reçu Franck Magnier ce matin, on aurait eu les mêmes réponses?
Ouais, je crois.
Aux questions.
Ouais, ouais, je pense. Ouais. Ouais.
Il doit tout aussi à ta femme.
très très bonne question.
Donc c'était Jocelyn,
le pianiste. Bah lui, il a une voix qui porte. Hein. On aura tout le long de cet entretien des extraits de ton travail qui viendront bien sûr illustrer tes propos. Voici les Guignols de l'info, l'actualité d'il y a donc une vingtaine d'années, hein, sous la plume d'Alexandre Charlot, Franck Magnier et Bruno Gassio. Johan, s'il te plaît. mérite quelques applaudissements, effectivement.
Alors, la fiction, c'était un...
Virenc ?
Non, la fiction, c'était pour les 15 ans des Guignols. D'accord. Et ils nous avaient, Alain De Greff nous avait commandé un petit téléfilm. Et au départ, il voulait un truc genre 12 minutes, un truc comme ça. Et puis, et on a eu l'idée. Alors, le truc, c'est qu'en fait, les politiques se réveillent un matin et les gens ont disparu. Il n'y a plus personne. Et c'est pour ça qu'ils s'aperçoivent là que... Donc, ils sont tous réunis parce qu'ils se retrouvent tous gauche et droite. C'était à l'époque où Jospin était Premier ministre. C'était la cohabitation avec Chirac. Et en fait, ils s'aperçoivent que la bourse marche quand même. Et c'est pour ça qu'il y a tout le discours de Strauss-Kahn, comme quoi on n'a pas besoin des gens pour que la bourse marche. Et malheureusement, et c'est là où on se dit, des fois je me dis, putain, on était bons quand même. C'est qu'en fait, ça se vérifie. C'est horrible, ça se vérifie. Et donc, en fait, on a fait une fiction d'une heure. Parce que le sujet était vaste. Et puis, De Greff, qui est mort depuis, mais qui était un super directeur des programmes, nous a dit, on vous donne de l'argent pour que vous fassiez une heure. C'était énorme. Hein. C'était, je ne sais plus combien de millions de francs à l'époque, mais c'était vraiment énorme. Et on a fait... Donc, c'était la première fois qu'on faisait une fiction. D'habitude, c'est des sketchs. Donc là, ce que vous avez vu avec Virenc, c'était des sketchs enregistrés, en fait. Donc ça arrivait assez souvent qu'on fasse des parodies. Là, c'était la parodie du Truman Show. Et sinon, c'était le direct avec PPD qui était là. Et puis, voilà.
Les invités, l'actualité, tout ça. On s'en souvient tous. Écrire sur... Quelqu'un avait une question, non ? Ah non, j'entendais, d'accord. Écrire sur l'actualité, c'est un exercice particulier, bien sûr. Et l'histoire nous dira que tu t'es orienté beaucoup vers la comédie dans ton parcours. Écrire un scénario comme une affaire d'État ou comme les têtes de l'emploi, qui sont des sujets sociaux et politiques, tous les deux, c'est important aussi pour toi. Ça reste une source d'inspiration, encore aujourd'hui, de l'actualité. Est-ce que ça te manque au quotidien de ne pas la traiter ?
Alors, tous les matins, quand on se retrouve avec Franck... Alors, le truc, c'est que pendant des années, on s'est retrouvés physiquement ensemble, parce que moi, j'habitais à Rambouillet ou à côté, et puis lui habitait dans l'Ouest aussi, à côté de Montfort-l'Amaury. Donc, on se retrouvait tous les deux. On traversait la forêt, on voyait des biches, des sangliers, tout ça, et puis on allait bosser ensemble. Et là, depuis que je suis à Angers, on bosse par visioconférence, je sais pas comment on appelle ça. Donc il est dans mon écran et tout, mais ça change rien. Et tous les matins, c'est vrai qu'on a tendance à parler de l'actualité, puis à se dire, tiens, on ferait ci ou on ferait ça. Donc c'est un peu les vieux réflexes qui nous ont pas lâchés. Le truc, c'est que, pour répondre à ta question, c'est que, je dis pas qu'on s'est égaré, hein, c'est pas ça, mais quand on s'est mis à écrire puis à réaliser, on a fait des choses qu'on nous a proposé de faire et tout. Et avec les têtes de l'emploi, par exemple, on est revenu... Alors effectivement, il y a eu une affaire d'État, mais avec les têtes de l'emploi, on est revenu à quelque chose qui ressemblait beaucoup au Guignol. Ouais. Et c'est un style de comédie qu'on voudrait faire maintenant tout le temps, parce que ça nous ressemble énormément. Et c'est vrai que ça nous manque un peu de plus pouvoir porter notre regard et...
Vous pourriez le faire avec un blog, par exemple, ou quelque chose de très facile à entretenir.
Ouais, mais personne... ça intéresse personne, apparemment. Ils n'ont pas envie d'avoir notre avis, donc c'est pas grave.
Pour clore ce chapitre télévision, les bruits courent jusqu'à ce petit théâtre de la comédie, et son public, d'un possible retour à l'écriture pour la télévision. Est-ce qu'en exclusivité pour nos amis d'Angers, tes amis d'Angers, tu peux nous parler
C'est en train de se faire. Alors c'est pas du tout des sketchs ou des choses comme ça, parce qu'aujourd'hui la télé, je pense que c'est devenu quasiment impossible. On a vu ce qu'étaient les Guignols aujourd'hui.
Tu regardes de temps en temps
Non.
Non. D'accord.
Non. Mais en fait, je regardais pas avant et j'ai cessé de regarder après. C'est une affaire de génération aussi, les Guignols. Hein. C'est-à-dire que ce qui était drôle, c'est que nous, quand on a fait les Guignols, les gens nous disaient « Ah ouais, non, mais vraiment, la bonne époque, c'était avant. Ouais. » Donc c'était avant nous. Donc, waouh. Et puis, quand on est parti, les gens nous disaient « Ah, mais c'était la bonne époque.
Ouais, » okay.
Donc c'est toujours la bonne époque. Après, c'est les nouvelles générations qui n'ont pas forcément connu. Alors moi, mon fils, par exemple, il me sort des trucs sur YouTube que je faisais. C'est pour ça que j'ai redécouvert, en fait, avant que vous m'appeliez. Et je me disais, ah, c'est bien, c'était bien. Ça. Mais non, alors en fait, on fait une série qui va sortir, hein, c'est pas sans mal, mais on fait une série franco-allemande. On est venu nous chercher, il y a deux producteurs qui sont venus nous chercher, donc une française, une allemande, et un allemand. Et c'est une série, en fait, c'est l'histoire d'un village français qui est surendetté à cause d'une gestion calamiteuse de la mère du village qui est plutôt incompétente. Et en fait, le seul truc qu'elle trouve pour renflouer les caisses, c'est de vendre un hameau entier à un entrepreneur allemand qui va y amener toute son entreprise. Donc 200 personnes d'un coup dans un village de 2000 personnes. Et donc ça va raconter comment vont vivre ces Français, cette invasion, parce que voilà, qui rappelle un peu des mauvais souvenirs. Cette invasion teutonne, donc les Allemands quand même, on l'a vu aujourd'hui, hein, qui sont quand même un peu tout puissants, ou qui donnent l'impression d'être tout puissants, ou en tout cas qui nous donnent l'impression que nous on ne l'est pas du tout. Et donc comment cette cohabitation va se passer? Donc il y a un petit côté, je pense qu'ils sont venus nous chercher pour ça, il y a un petit côté bienvenue chez les ch'tis, puis en même temps il y a un côté série, c'est-à-dire que c'est un 10 fois 26 minutes, on parle de personnages, tac, 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 tac. Et c'est un gros bordel, parce qu'écrire avec les Allemands, c'est très dur. Parce qu'ils n'ont pas le même humour que nous.
Ils ont de l'humour.
Alors, j'ai toujours une blague, moi, c'est ma préférée. Est-ce que vous connaissez la différence entre l'humour allemand et l'humour juif ?
Quelqu'un a une idée.
C'est l'humour. et je vous assure que il y a des fois, on se demande vraiment s'ils ont de l'humour. Quoi. Donc c'est difficile de s'accorder. On va finir par s'accorder, mais c'est pas étonnant que Derrick soit allemand.
En fait. En revanche, avec Franck Magnier, tu renoues avec l'écriture sociale et politique. Ça, c'est la bonne nouvelle pour toi.
Ouais, alors là c'est quand même le truc qui est marrant, c'est qu'on et pour le coup la série, c'est quand même assez intéressant parce que nous ça nous ramène à un format plus court que le cinéma. Donc écrire des 26 minutes quand la structure est faite, c'est un vrai bonheur parce qu'en 3 jours c'est fait quoi. Enfin, donc on peut vraiment y aller. Et puis donc on développe des personnages, des caractères, donc ça c'est quand même intemporel. Ouais. Mais c'est vrai que on parle de choses, ça on adore ça quoi. Par exemple, à un moment donné, parce que la mère du village, qui est quand même assez incompétente, qui va peut-être être jouée par Chantal Lobby, donc elle a dit oui, mais après il y a des problèmes de calendrier, donc on ne sait pas, mais elle a dit oui. Non seulement elle a vendu le hameau, mais elle l'a vendu à des conditions pas possibles quoi. Et une des conditions, c'est que pour que les Allemands soient là, parce qu'elle se dit bon, s'il y a 200 Allemands qui viennent, ils vont consommer, donc ça va être bon pour le village. Donc je peux vendre à bas prix, c'est pas grave, je me rattraperai et tout ça. Et donc elle a signé un article comme quoi elle s'engage à satisfaire à tous leurs besoins. Donc forcément les Allemands, la première fois ils arrivent pour rejoindre le bâtiment qui va leur servir d'entreprise, la route est pourrie. Et donc eux, comme ils sont super attachés à leur bagnole, ils veulent une route goudronnée plus large et tout ça. Et elle est obligée de le voilà. Elle est obligée de dire oui, quoi. Et je viens d'oublier ce que je voulais vous dire. Ah oui, non. Et donc, il y a une négociation, et l'Allemand lui dit, écoutez, Martine, je suis vraiment désolé, mais c'est dans l'article 2, quoi. On est obligé, hein. Et donc, elle est obligée de céder. Il lui dit, ben oui, mais les contrats doivent être honorés. Sinon, c'est la Grèce. Elle lui fait, oui. Et votre village, c'est pas la Grèce. Ah non. Et en fait, le truc, moi, par exemple, j'ai pu expérimenter, je vous assure, que en discutant avec un auteur allemand, donc des auteurs, on se dit, ils sont un petit peu plus fantaisistes, quoi, et ben, il m'a soutenu que la Grèce devait payer point barre. C'est-à-dire que c'est exactement le même discours que le ministre des Finances allemand. Ah ouais. Les Allemands sont...
Ils sont pas là pour rigoler, quoi.
Non, ah non, ils rigolent pas. Non. Donc c'est terrible. Je dis ouais.
Ils font des belles voitures.
Ouais, bon, d'accord.
Un peu surestimé,
mais bon.
Combien d'épisodes ou c'est pour une saison?
C'est pour une saison. Donc en fait, ça a été acheté par. Alors, c'est là où c'est un peu le bordel. Ça a été acheté par Deutsche Telekom en Allemagne et ça a été acheté par Amazon France, qui vont lancer, c'est leur première série. Et donc, il y a deux diffuseurs, il faut qu'on s'accorde. Mais le projet est chouette.
Ouais.
Le projet est chouette. Si, s'il n'y avait pas les Allemands, ce serait encore mieux. Mais le projet est chouette.
On lève en la veine, bah, c'est les Allemands. Enfin, s'il te plaît. Vincent.
Une femme comme édile de la commune. Parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas très valorisée.
Non, mais alors, c'est vrai. Mais je trouve que de choisir une femme pour jouer un rôle qui normalement est dévolu aux hommes, et ben je trouve que ça valorise les actrices en fait. Et en fait, avec Franck, on est un peu retors. Enfin, on trouve que surtout en cette période d'Harvey Weinstein et compagnie, c'est un milieu exclusivement masculin, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours des rôles pour les hommes tout le temps. Et quand on effectivement, elle mais attention,
tu parles
du cinéma. Elle n'est pas que ridicule, elle est vachement attachante, bien sûr. Et en fait, c'est un beau rôle pour une femme, quoi. Donc on pense toujours un peu aux femmes en premier, parce que je sais pas pourquoi.
Il y a une question dans la salle, je crois.
Doit être féministe.
Non, merci. Qui a fait la caractérisation des personnages? Est-ce que c'est vous ou bien est-ce qu'on vous les a imposés?
Non. On est venu nous chercher en nous parlant d'un concept comme ça, de fameux concept. Ils font des concepts. Les Allemands. Alors c'est nous qui avons trouvé cette histoire de mère et tout. C'était les Allemands viennent. C'était carrément les Allemands achètent un hameau dans un village, ou achète un village. Et puis on leur a dit, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en Grèce, oui, c'est possible. Il y a des fortunes qui ont acheté des îles. Ça, c'est possible. Mais pas la France. La France, on n'est quand même pas... voilà. Donc en fait, on leur a dit, il faut quand même qu'on... C'est rigolo comme idée, parce que ça implique des choses, l'invasion des Allemands, enfin l'arrivée des Allemands et tout. Mais il faut quand même qu'on rende la chose possible. Donc en fait, c'est là où peut-être l'expérience des Guignols, je sais pas, mais on s'est dit, bon, il y a des emprunts toxiques dans des villages, il y a des villes qui sont surendettées, donc tac, tac, tac. Alors on a pensé, moi je venais d'un... J'ai habité, mon collègue habite dans un village, moi j'ai habité très longtemps dans un village. J'ai vu, par exemple, dans le village où j'habitais, il y avait une... Elle était plus mère à l'époque, mais il y avait une dame qui s'était retrouvée mère, comme ça. Donc ça, c'est un truc qu'il fallait expliquer aux Allemands. Leur expliquer que vous élisez une liste et par exemple donc notre personnage voulait être juste au comité des fêtes mais donc elle se fait élire sur la liste et puis après la liste c'est comme pour le pape quoi, ils élisent entre eux un maire et vous pouvez vous retrouver maire alors que vous n'avez pas du tout demandé
à l'insu de son plein gré.
Exactement.
Je connais.
Donc elle se retrouve là-dedans et c'est pour ça que elle est dépassée, quoi. Elle veut être gentille avec tout le monde et tout, mais elle n'est pas faite pour ça. Et donc, à partir de ça, on a défini des personnages. Ça, c'est vraiment nous, ouais. C'est-à-dire qu'on a... On, avant d'écrire les épisodes, on écrit ce qu'on appelle une Bible. Donc, comme son nom l'indique, c'est la Bible. Et dans la Bible, il y a les personnages, leurs caractérisations, d'où ils viennent, le potentiel qu'ils peuvent offrir à la série... Et après ça, c'est ça qu'on doit rendre à un diffuseur. Et lui, s'il est intéressé, après il signe. Donc c'est toujours, va-t-il signer ou pas?
Ouais.
Et une fois que c'est signé, on écrit les épisodes.
Germanized à suivre bientôt.
Germanized. Parce que c'est
avec l'accent allemand.
Non, avec l'accent anglais parce qu'on se parle en anglais. C'est-à-dire qu'on se rencontre avec les Allemands et on fait tout en anglais.
C'est neutre.
Donc je suis pas courant en anglais. Donc en général je rentre super fatigué.
Début des années 2000, pourquoi quitter le monde du petit écran pour le grand écran? Est-ce que c'est un choix déjà? Ou est-ce qu'on t'a offert des plus gros crayons pour écrire de plus grosses histoires?
Non, en fait au bout de 4 ans de Guignol, on s'entendait plus avec Gassio. Donc Franck et moi.
Mais toujours avec Manier, ouais.
Et en fait, c'était soit on partait et Gassio reprenait les Guignols en trouvant d'autres auteurs, ou soit lui partait et nous on restait tous les deux. Et puis il se trouve que bon bah voilà, moi j'avais mon deuxième enfant qui venait de naître. C'est super crevant, les Guignols à deux, c'est juste un enfer.
Le rythme quotidien.
Ouais. Et puis on avait fait cette fiction en fait, d'une heure. Et puis ça nous titillait, et puis Alain Degreff nous disait qu'il avait besoin de... Il nous disait, ah, j'aimerais bien voir... Nous, on était très branchés films de genre, films d'horreur et trucs comme ça. Et Degreff disait, ouais, j'alimenterais bien ma grille avec ça et tout. Donc il nous a fait un peu un appel du pied. À la Degreff, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez du personnage, mais c'était... Oh,
donc il nous parlait. Son guignol,
il nous parlait comme ça.
Très, très drôle.
Et puis en fait, on a décidé de partir pour écrire du long métrage.
C'est la découverte d'un milieu pour vous deux. Vous connaissiez un petit peu ou
Non, c'est-à-dire qu'en fait,
c'est pas du tout les mêmes enjeux que la télévision.
Non, quoi. C'est un nouveau métier et on a même cru qu'on n'y arriverait pas en fait, parce que ouais. C'est comme si vous couriez le 100 mètres et puis tout d'un coup on vous dit vous allez faire du 5000 mètres quoi, ouais. Du 10 000. C'est-à-dire qu'en fait il a fallu qu'on réapprenne tout, mais tout quoi, tout. Enfin, d'abord qu'on apprenne tout, pas qu'on réapprenne. Et la difficulté en plus c'est que les guignols, c'est une école du surdialogue. Comme il n'y a pas de... C'était PPD avec un invité. Ou voilà. Donc c'est, tout passe par le dialogue.
Il n'y a pas de personnage que tu peux choisir. Quoi. Ça passe aussi par l'actualité.
Bah, l'actualité et puis... Alors ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on caricature des personnages qui existent. Alors qu'au cinéma, on doit faire exister des personnages à partir de rien déjà. Donc avant de les caricaturer, il faut les faire exister. Donc ça, pour nous, c'était... Ça a été difficile. Et puis on dialogue. Alors qu'un film, le dialogue, je dirais, ça arrive presque en dernier. C'est-à-dire qu'un film, tout doit passer par l'image avant de passer par les dialogues. Donc, et puis un film, ça dure 1h30, alors qu'un sketch, ça dure 1 minute 30, quoi. Donc,
Là, tous les deux, vous écrivez une histoire et après vous cherchez un producteur ou directement tu vas rencontrer des gens qui font du cinéma en disant qu'est-ce qu'on peut écrire pour vous?
Alors jusqu'à maintenant, on a réussi à rencontrer des producteurs. Ouais. Alors ça va d'un producteur qui a une idée qui vient nous voir, à nous qui avons une idée qui allons voir un producteur, des choses comme ça. Mais ça passe toujours par un contrat. Il y a un scénario qu'on a écrit à nos heures perdues et qu'on va faire lire à un producteur. Mais là, on n'a pas le temps parce qu'on est sur d'autres projets. Donc, dès qu'on a du temps, on se remet dessus. Le scénario est écrit. Et celui-là, on le proposera. Mais en général, ça passe par un contrat. Donc, on a la chance de, à chaque fois, d'avoir eu... C'est-à-dire qu'on n'a pas, pas d'employeur. Voilà, on n'est pas salarié, mais on signe un contrat avec un producteur. Et on travaille pour lui le temps du film, en fait.
C'est ça. Quand tu écris pour le cinéma, l'argent, c'est un compagnon de route quand même. C'est une industrie énorme.
Ouais.
T'as une pression ?
C'est pour ça que maintenant, nous, on a envie de faire des films plus petits. C'est-à-dire qu'on a plus le budget est gros, plus on a de la pression. Ouais. Le pire, ça a été Boule et Bill, parce qu'il y avait TF1.
Ouais.
Donc là, vous avez des trucs...
On va revenir sur les détails de ton parcours.
Ouais, ensuite, ouais, ça peut devenir... C'est-à-dire que les exigences des gens qui mettent beaucoup d'argent peuvent devenir intersidérales.
Ouais.
Donc, en fait, c'est simple, c'est moins vous avez d'argent, plus vous avez de liberté. Et bon, à un moment donné, quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous allez boire de la liberté, vous n'avez pas beaucoup d'argent.
On a faim, mais on est libre.
Voilà, c'est ça. C'est assez philosophique. Hein, quand même.
Il y a deux manières de travailler, j'imagine, pour l'écriture d'un scénario. C'est de se baser sur une histoire, un roman, une bande dessinée, par exemple, comme ici. Ou d'écrire un scénario dit original. Toi qui pratiques les deux, qui a pratiqué les deux, lequel est-ce que tu préfères?
Après, c'est presque une question... Je sais pas. C'est aussi une question de fierté, par exemple. Là,
Parce qu'il y a eu aussi Astérix... Ouais. Aux Jeux Olympiques.
Bon, la fiction des Guignols, c'est une idée originale. Donc, c'est une grande fierté, quoi. Là, on est en financement sur un sujet. Il est entièrement de nous deux. Donc, voilà, c'est comme notre bébé. Après, les têtes de l'emploi, c'était un scénario qu'on nous a fait lire, qu'on a retravaillé et que moi j'ai trouvé formidable. Ça peut être... Alors, comme les producteurs ont tendance à être quand même assez paresseux, et... Ouais, il faut quand même dire ce qui est. Et ils ont peur. Donc ça les rassure d'adapter. Ce qui n'est pas forcément facile. Hein. Adapter un livre, c'est très très dur. Ouais. Alors, c'est ça aussi. Ça fait partie des choses. Il faut leur expliquer. Parce que justement, ils se disent, comme il y a un bouquin, puis ils ont payé les droits, ils se disent, on va pas les payer cher. Mais en fait, on doit leur expliquer que adapter un livre, c'est pas facile, c'est vraiment du travail. Et des fois même, je dis pas que c'est plus dur, mais il faut s'affranchir du livre pour mieux y revenir par l'adaptation, ouais. Enfin bref.
Tout en respectant
donc,
le fond.
Ouais. Je sais pas, après ça dépend de l'intensité du projet, de l'intérêt, j'ai pas de... C'est une histoire de fierté, quoi. Réussir à sortir quelque chose de soi, de A à Z, ouais, on se dit, ouais, c'est chouette.
On parle du travail d'Alexandre Charlot, puis on le regarde aussi.
Oui, j'en ai
une question.
Les producteurs sont en frileux, donc ils veulent plutôt des remises, c'est ça ? Et au niveau des adaptations aussi. Ouais. Et au niveau des acteurs, est-ce qu'il est possible de faire des films aujourd'hui avec que des inconnus ou pour forcément des têtes d'affiche ?
T'as un CV sur toi ?
Comment ?
T'as un CV sur toi, tu veux ?
Non, c'est très difficile. Ça dépend du budget. Si t'as. Donc, par exemple, un moyen budget aujourd'hui, c'est 5 millions. Si tu fais un film pour 300 000 euros, tu peux prendre des inconnus. Le truc, c'est que ça n'intéressera personne. Ça sera diffusé dans 10 salles et puis terminé, quoi. Nous, quand on fait les têtes de l'emploi, on avait 4 millions, donc c'était pas un gros budget. Et puis, on avait Dubosc. Et ça a été très, très dur à financer. Très, très dur, malgré Dubosc. Et puis, comme Dubosc, il prend pas peu. En fait, il y avait une espèce de paradoxe. C'est-à-dire qu'on avait très peu d'argent, mais après Dubosc, Elsa Zilberstein et Deux Maisons, on avait encore moins d'argent.
Ouais.
Donc, le film, en fabrication, on l'a vraiment fait pour très, 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 très peu. Et au final, le gain, je sais pas trop, parce que j'anticipe, mais au final, il a dérouté. C'est-à-dire que les fans de camping, ils sont pas venus. Parce que Dubosc était dans un contre-emploi total. Puis ceux qui n'aiment pas Dubosc, ils sont pas venus non plus. Alors, on fait quand même 500 000. Donc, comme le budget est de 4 millions, en fait, tout le monde est content. Les financiers sont contents, ils retrouvent leur bille. Tout le monde est content, donc on s'en sort. Mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire que tout se mord la queue, quoi. Le producteur ou celui qui met de l'argent, il veut quand même des têtes d'affiche. Ouais. Si on n'en a pas, alors puis journaliste aussi est paresseux. Hein, il a tendance à pas tellement aller vers des films pas très lisibles. Ils aiment dire ça, les journalistes.
Plus intimistes.
C'est pas très lisible ou visible. Et donc c'est tout un ensemble. C'est très très dur, quoi. Il faut trouver le bon ton, la bonne envergure, je dirais, de l'acteur par rapport au budget. C'est pas facile. Ouais.
Et dans ton parcours, il y a également le très bon Une affaire d'État, distribution de rêve pour ce polar politique. Une affaire d'État d'Éric Vallette. Au casting, André Dussolier, Thierry Frémont, Rachida Brakni. Dans les rôles secondaires, Serge Anavicius et Denis Podalydès. On va regarder un extrait, si tu veux bien, Yoann. Là, ça bouge pas beaucoup pour du cinéma. Ouais. C'est un palmarès étonnant quand même. T'as fait tourner de beaux et bons acteurs.
Là, on est scénariste sur ce film.
Ouais.
On est que scénariste.
Et quand tu écris, il y a des noms qui te viennent en tête?
Non, jamais. Non, non. On écrit des personnages et puis après les acteurs viennent. Parce que d'abord, c'est pas forcément l'acteur auquel on pense qui va dire oui, ou que le producteur va vouloir, ou enfin bref, qui va être là au final. Et puis moi je ne crois plus à un rôle pour un acteur. En fait, différents acteurs proposent différentes interprétations et en fait. C'est celle que vous voyez sur l'écran, mais ça pourrait être une autre interprétation, en fait. Et je trouve ça super intéressant, parce que d'abord, eux nous font évoluer aussi. C'est-à-dire que nous, quand on écrit un personnage, on a tendance à l'imaginer comme ça, en fonction de ce qu'on est, et tout ça. Et puis, des fois, l'acteur arrive, ou l'actrice, et elle dit, elle propose quelque chose, parce qu'elle a sa sensibilité, et puis, c'est hyper intéressant. Ce qui fait qu'en fait, c'est à vous de penser à tout, mais en même temps, il faut être capable d'accepter, et c'est ça qui est passionnant dans ce métier-là, quoi.
Est-ce qu'il y a des acteurs ou réalisateurs qui te font encore envie aujourd'hui ? Oui, même des réalisateurs d'ailleurs, qui t'inspire ou que toi tu aimerais inspirer?
Alors des réalisateurs. Alors moi j'avais un grand fantasme quand j'étais plus jeune parce que j'étais baigné des histoires américaines, donc je lisais les trucs sur Scorsese et Paul Schrader, donc celui qui a écrit Taxi Driver, Raging Bull, tout. Et en fait je rêvais d'un duo comme ça, enfin d'une espèce d'entente. Et on a cru qu'avec Valette, par exemple, ça allait être possible.
Eric Valette qui a réalisé une affaire.
Il a réalisé notre premier film, Maléfique
ouais.
Qui était un film d'horreur.
En fait, de genre.
Ouais, d'horreur. Hein. Et puis une affaire d'État. Et on pensait qu'il y aurait, parce qu'on s'entend hyper bien avec Valette. Mais ça reste un réalisateur à la française, c'est-à-dire que c'est un peu un mercenaire. Et donc en fait ça n'a pas pu se faire quoi. Moi je rêve de me mettre au service d'un réalisateur. Alors maintenant qu'on est passé réalisateur, c'est encore plus dur parce qu'on est étiqueté, donc les producteurs se disent non, ils veulent pas écrire pour d'autres. Ouais. Mais moi je veux bien écrire pour d'autres, mais j'ai pas trouvé de voilà. Alors des acteurs, oui, il y a des acteurs qui m'intéressent, d'autres qui m'intéressent pas du tout. Non mais par exemple, Depardieu, j'ai pas envie de tourner avec lui, par exemple. Dujardin, j'ai pas du tout envie de tourner avec lui. Attention, ça veut pas dire que il est formidable et tout ça. Mais j'ai pas envie. Par exemple, quelqu'un comme Patrick Timsit, je l'ai rencontré une fois parce que Franck le connaît. Humainement, c'est quelqu'un qui est vachement intéressant. Et j'aimerais bien tourner avec lui. Voilà, il y a des gens comme ça. De toute façon, Dujardin, il a pas envie de tourner avec moi.
Il a pas le temps.
Il t'a volé Lucky Luke, c'est ça?
Ah non, non, non. Non. Non, je crois qu'ils s'en foutent. En fait, je sais même pas s'ils savaient que. Oh, si, peut-être, mais bon, ils s'en foutent.
Si, mais effectivement, parce qu'on parle du travail que tu réalises, des films que tu as scénarisés, réalisés. Quel est le temps que tu consacres à des écritures d'histoires, voilà, de scénarios, des dialogues qui ne verront malheureusement jamais le jour? Parce que c'est une vérité aussi, ça. Les coups d'épée dans l'eau, quoi.
Bah, je consacre plus de temps aux projets qui sont
pas... Ouais, forcément. Il y a des grands regrets ou des choses que tu gardes dans le tiroir?
Non, il y a des grands regrets. Il y a des grands regrets. On avait écrit un film sans dialogue, un film préhistorique. Pour le producteur d'une affaire d'État, et puis ça a pas pu se faire parce que trouver un réalisateur français qui a la trempe d'un américain qui sait se mettre au service d'un scénario, c'est pas facile. Puis fallait quand même, je sais pas, fallait peut-être au moins 10 millions de, parce qu'il y avait quand même quelques effets spéciaux. Donc ça s'est pas fait, donc ça c'est un regret.
Il y avait Lucky Luke dont parlait Vincent.
Il y a eu un Lucky Luke, ça c'était assez cocasse. Je vous le raconte rapidos, hein, mais c'est-à-dire que, un peu pour vous donner un peu l'idée de ce milieu, c'est que après, je sais plus après quoi, la grande patronne du GC vient nous voir et elle nous dit, je crois que c'était après Blueberry, il s'était planté, mais vraiment planté quoi.
Sur une adaptation,
ouais,
de BD.
Et elle nous dit bon, voilà. Il y en a marre des vedettes, il y en a marre des stars. La star, c'est le scénario. Donc, ils avaient fait un premier Lucky Luke avec Eric et Ramsey, qui avait marché, mais pas.
Dalton.
C'était
alors,
les ouais, Dalton,
ça,
voilà.
Ouais, t'as fait.
Et donc, il y en a marre, c'est le scénario, la star. Donc, je voudrais que vous nous écriviez un Lucky Luke. Donc, on lui dit, elle s'appelle Brigitte, on lui dit Brigitte, très bien. Donc on réfléchit, tout ça, on va chercher... Alors ils avaient tous les albums, hein, ils avaient acheté les droits de tous les albums, donc on avait récupéré tous les méchants, enfin plein de méchants d'albums. Enfin bref, on avait concocté une histoire, on avait créé une journaliste qui était la première paparazzi de l'histoire, enfin c'était, voilà, c'était un peu notre côté guignol, tout ça. Ouais. C'était plutôt bien, et puis c'était bien à tel point que s'ils ont des lecteurs chez UGC comme un peu partout, et tout le monde disait que le scénario est formidable, donc là c'était formidable, le scénario est génial et machin et tout, donc voilà. Et puis quand le producteur nous dit, parce qu'il y a elle la grande patronne et il y a des producteurs maison, quand le producteur nous demande vous voyez qui, n'était pas censé réaliser. Alors, pour le réalisateur, on leur avait parlé de l'Artigo, celui qui a fait la famille Bélier. Mmh. En fait, avant qu'ils deviennent célèbres pour ça, il faisait des sketchs pour les Guignols, il réalisait des sketchs. Donc, on le connaissait un peu, donc on lui dit « Ah, lui, il est pas mal, on s'entend bien avec lui, tout ça, machin. » Et puis, vous voyez qui comme pour faire Lucky Luke. Alors, c'est assez drôle, parce que à l'époque, hein, on leur dit « Ah, CAD serait pas mal. » Et CAD venait de faire « Je vais bien, ne t'en fais pas », donc un film dramatique. Et le producteur a eu cette phrase terrible, enfin, qui est drôle, il dit « Non, CAD est trop triste.
» Le mec avait compris dans l'œil, quoi.
Et puis, et un gros flair. Donc, l'Artigo, on rencontre l'Artigo, qui adore le scénario et tout. Et l'Artigo, qui a envie justement d'accrocher des acteurs à son palmarès ou à son tableau de chasse, dit ah moi c'est je vois du jardin. Alors il venait de faire Bryce de Nice, je vois du jardin. Et là il appelle, je vous jure que c'est vrai, il... c'est vrai, il contacte du jardin et du jardin répond je veux faire Lucky Luke, mais pas avec ce scénario. Je veux tout écrire avec mon copain James Hutt, qui avait réalisé Bryce de Nice. Et que croyez-vous qu'il arriva? Est-ce que la productrice...
Est-ce que la productrice
a préféré le scénario Star ou la Star? Ben, en fait, elle a préféré Dujardin. Et notre scénario... C'est la première fois d'habitude quand votre scénario part à la poubelle, c'est qu'il n'est pas bon. Et là, c'est la première fois où on avait un scénario qui était vraiment bon, qui est parti à la poubelle. Et donc, Dujardin a fait Lucky Luke avec James Hutt, qui n'a pas marché comme ils auraient voulu qu'il marche. Lui, il voulait vraiment faire un cow-boy sérieux, ce qui est une aberration, puisque Lucky Luke, c'est pas... Et voilà, ça s'est terminé comme ça. Mais sur Allociné, pendant assez longtemps, on était crédité au générique. Donc les gens nous disaient, vous avez fait Lucky Luke? Non, on n'a pas fait Lucky Luke.
Et aujourd'hui, le scénario, il appartient... À vous ou à
non, il appartient. Non, il appartient à UGC. Alors non, peut-être après toutes ces années, il est à nous. Mais enfin bon, comme on n'a pas les droits, ça sert à rien. On peut vous le faire avec des chaussettes, mais.
Le passage ensuite à la réalisation. Est-ce que vous êtes senti prêt toujours avec ton ami Franck Magnier? Vous êtes senti prêt à sauter le pas ou l'envie se présente ou alors il a fallu quelqu'un comme à la piscine. Allez, vas-y, saute.
Les deux. Moi, je rêvais de réaliser. Enfin, parce que j'étais baigné de tous ces trucs. Moi, tous ces grands trucs de ciné, de réalisateur et tout. Moi, je rêvais. Mon collègue ne il se voyait pas du tout. Et puis c'était après les ch'tis. Alors c'est pareil, c'est pour des mauvaises raisons. Hein.
Vous avez scénarisé.
On a scénarisé
tous les deux.
La grande patronne du GC, toujours elle, qui est quand même Brigitte. Son petit caractère, Brigitte. Elle nous propose de, enfin via ce producteur avec qui on s'entendait bien, hein, d'adapter Imogen McCarthery d'après un roman d'Ex Braya. Alors les plus jeunes ne connaissent pas, mais Ex Braya, dans les années 60, écrivait des polars drôles. Alors, je ne les ai pas tous lus, hein, aux éditions du Masque. Vous les trouvez encore sur les brocantes, c'est une couverture jaune. Et donc, c'est un peu une mauvaise raison, parce qu'elle se dit, comme c'est les scénaristes des ch'tis, ça a forcément marché, machin. Et puis, nous, c'est l'occasion. Moi j'ai envie de le faire, alors on discute quand même, puis Franck finalement se jette à l'eau parce qu'on en avait marre aussi des scénarios. Ça c'est un peu le problème, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai, c'est que les scénaristes qui se mettent à la réalisation, en fait ils le font parce qu'ils en ont marre de voir leur scénario salopé, quoi.
Dénaturé.
Les premiers films on les fait pas pour des bonnes raisons, en fait on les fait pour garder le contrôle. Et c'est après qu'on devient ou pas réalisateur. Mais là, pour le coup, pour ce scénario-là, on n'était pas vraiment réalisateur. On mettait en image ce qu'on avait écrit, quoi. Mais c'était chouette. Moi, j'étais content. Et ça nous ressemblait pas complètement. C'est-à-dire que on y a trouvé un intérêt parce qu'il y avait un jeu sur la langue, il y avait un côté désuet, il y avait une direction artistique qui était hyper intéressante. Puis il y avait un côté Panthère Rose à l'envers, c'est-à-dire qu'on avait des acteurs français qui jouaient des Anglais. Et puis ça nous plaisait, quoi. Voilà.
Enfin, quel luxe quand même pour la première expérience en tant que réalisateur d'annoncer le traditionnel action à Catherine Froux.
Ouais.
Oui, quand même. C'était pour Imogen McCarthery, vous l'avez compris.
Catherine...
Bonne annonce.
Oui.
Et puis on revient sur l'expérience. Action, Johan.
Je sais beaucoup de choses sur votre compte.
Voilà, félicitations, on peut applaudir. Oui.
J'ajouterais juste, c'est ma femme à l'époque était graphiste, c'est elle qui a fait toutes les animations.
Ah, et
elles sont belles quand même. Merci Jocelyn.
Elle nous entendra. On parlait de liberté au début de l'entretien. Est-ce que tu aurais préféré avoir d'autres expériences avant de plonger dans ce grand bain du cinéma ? Je parle évidemment de courts-métrages, comme nos amis de Cour et 49, de productions moins coûteuses pour gagner en liberté et perdre en pression.
C'est difficile de répondre à ça parce qu'en fait, c'est pas mon parcours, quoi. Je suis à venir à la réalisation. On peut y venir de plein de manières différentes. Donc il y a des acteurs qui deviennent réalisateurs, il y a des scénaristes qui deviennent réalisateurs, il y a des chefs opérateurs qui deviennent réalisateurs. Alors eux ils connaissent l'aspect technique, les objectifs, tout ça. Et puis il y a le côté effectivement on fait des cours et puis après on fait des longs. Moi mon parcours ça a été de scénariste, donc je peux pas dire que je regrette. Qu'en fait c'est voilà, ce parcours c'est celui-là. Maintenant, c'est vrai que faut que je devienne réalisateur. Je dis il faut que je devienne, c'est-à-dire qu'après trois films, je pense que je commence à l'être. Avec le dernier film, on a commencé à l'être, mais ça continue à être... C'est comme un nouveau métier, quoi. Mmh. C'est pas parce qu'on fait un film que... Enfin, effectivement, après, sur Allociné, par exemple, c'est marqué... Scénariste, réalisateur. Après, c'est vous, quoi, par rapport à vous-même. Moi, je pense qu'on a encore des progrès à faire pour vraiment penser comme un réalisateur. C'est pour ça que c'est difficile quand on écrit. On pense comme des scénaristes, mais pour réaliser, il faut vraiment... Enfin, c'est comme une schizophrénie, quoi. Faut plus penser comme un scénariste. Faut se dire, voilà, j'ai un scénario, et comment je fais pour raconter cette histoire ? Donc, faut oublier que c'est nous qui avons écrit ce scénario.
Tu parles de l'aspect technique, le choix des plans, le...
Ben, en fait,
quelque chose qui t'intéresse.
C'est pas que technique. C'est-à-dire que comment on raconte une histoire. Et effectivement, on la raconte avec des cadrages, on la raconte avec des optiques, on la raconte avec tous ces aspects entre guillemets techniques. Mais qui sont au service d'une histoire, c'est-à-dire que, mais ça c'est un truc que, en comédie par exemple ça n'a pas l'air, mais souvent on se dit que la comédie c'est facile à faire. Moi je trouve, j'ai jamais autant pris la tête que sur une comédie, c'est-à-dire que comment on raconte un gag, c'est très très difficile de raconter un gag. Enfin je me souviens au Guignol c'était un truc quand on travaillait avec les réalisateurs on disait attention au rythme. Alors déjà le rythme c'est hyper important et puis souvent il y avait une chute. Donc, faut pas rater la chute, quoi. Et donc, tout dépend comment. C'est parce que on peut. Il y a plein de manières de raconter une seule chose, en fait. Voilà. Et ça, c'est la grande question tout le temps qui revient quand on réalise. Et c'est des fois, ça peut être des questions sans fond, quoi. C'est compliqué, quoi.
Est-ce que tu peux avoir des regrets, par exemple, sur ce que tu as fait sur Imogène ou des choses comme ça?
Par exemple, oui, sur Imogène, je pense qu'on a été trop dans le contrôle. Imogène, on nous a dit après, et c'est vrai que le scénario était plus drôle que le film. Là, ça pose. Là, il y a un problème. Ça veut dire qu'on n'a pas été réalisateur sur le. Ouais. Normalement, c'est l'inverse. C'est ce qu'on disait, c'est ce que Gassiot disait toujours sur des dialogues. Il disait un mauvais dialogue, si on est bon dialoguiste, on va en faire un dialogue moyen. Mais un très bon dialogue, on va en faire un dialogue excellent. Et c'est la même chose avec un scénario. Si on a un bon scénario, normalement, il faut en faire un très très bon film, quoi. Donc oui, pour ce film-là, oui, j'ai des regrets, oui. On n'a pas été assez fou, on a voulu être trop dans le contrôle, et on n'a pas assez lâché prise. On l'a fait avec les têtes de l'emploi, quoi. Alors ça veut dire avoir confiance dans les acteurs aussi. Nous, on connaissait pas les acteurs. Maintenant, je commence à mieux comprendre comment ils fonctionnent. Ouais. C'est des drôles d'animaux, quoi. Il faut accepter aussi nous de lâcher, de garder notre idée de départ, mais de lâcher en attendant, de garder l'objectif final, mais le temps du trajet, il faut lâcher des choses pour voir s'il y a des trucs qui apparaissent. Qui sont inattendus. Et ça, pour Imogène, on l'a pas fait. On a voulu trop contrôler.
Ouais. Trop maîtriser, oui. Donc Imogène, adapté d'un roman. Deuxième réalisation, Boule et Bill, adapté évidemment de la célèbre bande dessinée, toujours avec Franck Magnier. Et puis la troisième co-réalisation, Les Têtes de l'Emploi, très bonne comédie, adaptée par le trio, enfin jouée par le trio Franck Dubosc, Elsa Silberstein et François-Xavier de Maison. Et tu nous as dit tout à l'heure que ce n'est qu'à partir de ce film que tu t'es senti réalisateur. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le fait que ce soit le premier scénario original que vous avez réalisé ?
Non, pas original en fait. On nous a amené un scénario.
D'accord.
Alors c'est peut-être aussi ça.
Pas adapté en tout cas d'une...
On nous a amené un scénario original qui était de... Alors, on a parlé... Qui était de Jérémy Ferrari.
Oui, il y a eu une polémique d'ailleurs.
En fait, bon, on va pas rentrer dans la polémique. En fait, c'était Jérémy Ferrari, mais il y avait des petites mains derrière.
Qui est un humoriste.
Mais il y avait son... D'ailleurs, ça fait partie des regrets. En fait, le problème, c'est les égos, surtout dans ce pays, j'allais dire. Parce qu'il a un humour qui est... dans lequel on s'est vraiment reconnu, quoi. D'ailleurs, quand on a lu le scénario, qui n'était pas parfait, hein, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'on le réadapte et tout, mais on s'est vraiment marré dès le début, et on s'est dit, oh merde, pourquoi on n'a pas eu cette idée ? Parce qu'on a vraiment trouvé une espèce de filiation entre... Enfin, voilà, on se retrouvait cousins, quoi. Et puis on l'a rencontré, et ça s'est très très mal passé, parce que, justement, le Jérémy Ferrari, comme beaucoup de gens qui font du one-man show, ils sont dans le contrôle, mais à un point, on change une virgule, les mecs deviennent malades, quoi. Donc ça a pas été possible de travailler avec lui, malheureusement, parce que je pense qu'on a un humour commun, et on a réécrit le film,
qui est une histoire de trois conseillers Pôle Emploi qui se retrouvent.
Ces trois conseillers Pôle Emploi qui, à force de radier à tour de bras, finissent par avoir des très très bons chiffres. Et comme on leur dit qu'ils ont les meilleurs chiffres de la région, et ben on va fermer leur Pôle emploi. Et alors c'est dingue, parce qu'il y a des gens de Pôle emploi qui vont être mis au chômage. Mais à l'époque, ça n'existait pas encore. Et donc ils ont l'idée de faire remonter les chiffres du chômage pour sauver leur agence.
On retrouve les sujets politiques et sociaux.
Ah là là, c'était génial.
Ouais. Vous avez vu ce film peut-être, vous prendrez plaisir à revoir quelques extraits. Sinon, voilà de quoi vous donner envie de découvrir Les Têtes de l'emploi. Magnéto, Serge.
Attendez là, il y a une erreur, on est fonctionnaire, on peut pas être licencié.
C'était pour toi, Jocelyn, la dernière.
Est-ce qu'il y a des sujets de société qui te tiennent à cœur, que tu voudrais évoquer ?
Ouais. On est en financement, c'est difficile, on est en financement sur un film, alors c'est d'autant plus rageant qu'on a le casting, sur une femme politique, ça a longtemps été un homme d'ailleurs. Et c'est assez marrant, mais le fait qu'on passe à une femme, tout d'un coup, il y avait une modernité. Alors que quand on est avec un homme, on est plus dans des territoires un peu déjà vus et tout. Ouais. C'était assez drôle. Et donc, c'est une femme politique, mais députée. C'est pas du tout de la politique nationale. Députée, donc c'est bien local, dans un village. Alors, ça pourrait être Sablé-sur-Sarthe, par exemple. Et elle est, ça fait 30 ans qu'elle est élue, 30 ans. Donc elle est de droite quand c'est la droite, elle est de gauche quand c'est la gauche. Enfin voilà, c'est vraiment
de la politique.
Et puis elle tape pas dans les caisses, hein, c'est pas le, mais elle est démago à fond. Et elle est à sa, je sais plus, 8e élection législative. Et un jour, il y a une vieille paysanne qui l'aborde sur un marché, qui est furieuse parce qu'elle lui avait promis une aide européenne, enfin une aide, et qu'elle l'a jamais vu venir. Son mari s'est suicidé, tout ça. Et évidemment, notre élu local lui fait « Oh, c'est pas de ma faute, c'est à cause de l'Europe. » Et l'autre lui dit « Tu es pourri, tu es une pourrie. » Et donc, c'est trop facile, dire que les politiques sont pourries. Hein, et puis, 3 semaines plus tard... Elle n'a pas très bonne mine. Donc la vieille lui crache quand même sur les chaussures. Enfin bref, ça ne se passe pas très bien sur le marché et tout. Et 3 semaines plus tard, elle n'a pas très bonne mine et elle inaugure une école, une nouvelle cantine scolaire. Donc elle est en train de couper un beau gâteau à la crème devant les enfants, les instits et tout. Et tout d'un coup, elle s'aperçoit qu'il y a un asticot qui tombe de son nez. Donc elle met de la crème pâtissière dessus, elle coupe le gâteau, elle sert la part à un gamin et tout ça. Et là, elle va voir sa vieille copine médecin, parce qu'on est dans un petit village, hein, donc c'est les notables, il y a sa copine est médecin, tout ça. Et sa copine médecin lui annonce que... Enfin, c'est totalement hallucinant, lui annonce qu'en fait, son cœur ne bat plus, ses organes ne fonctionnent plus, et que visiblement, elle est en train de à l'intérieur, elle est en train de pourrir. Quoi. Donc c'est pas Walking Dead, hein, c'est pas gore, c'est métaphorique. C'est-à-dire la question, c'est un peu comme pour la fiction des Guignols, c'est est-ce que ça va changer? Est-ce qu'elle va changer? Est-ce qu'elle va changer ses pratiques politiques? Est-ce qu'elle va continuer comme avant jusqu'à? Donc voilà, c'est une espèce de fable. C'est entre Frank Capra et Albert Dupontel, pour vous donner un peu le grand écart. Et on a le casting, on a Josiane Balasco, on a Chantal Lobby, on a tout le monde, quoi. Et il nous faut 4 millions. Donc je vais passer parmi vous.
C'est Noël.
Je vais passer parmi vous à la fin de. Et en fait, c'est très très dur d'avoir 4 millions parce que les chaînes de télé ne veulent pas venir. Les têtes de l'emploi, par exemple, aucune chaîne de télé a voulu venir. Parce qu'on ne parle pas du chômage. Oh là là, les gens, ça va les déprimer. Ouais. C'était ça le discours. Donc on a fait le film sans chaîne de télé. Et là, les têtes de l'emploi, ça s'appelle La meilleure d'entre nous. Donc pour les plus vieux d'entre nous, La meilleure d'entre nous, c'était Chirac qui disait ça de Juppé. Il disait c'est le meilleur d'entre nous. Donc là, on appelait ça La meilleure d'entre nous. Et c'est pareil, il faut qu'on trouve 4 petits millions pour le faire. Et il y a un autre sujet, moi j'aimerais bien, mais j'ai pas encore trouvé le truc, c'est faire un film sur les visiteurs médicaux.
Ah oui.
Parce que c'est quelque chose. Les labos, les visiteurs. Voilà. Et puis il y a un truc aussi qu'on aimerait bien faire, c'est on aimerait bien faire un sujet sur une entreprise de pompes funèbres familiales qui se fait racheter par un grand groupe. Et malheureusement, c'est dingue parce qu'on a eu l'idée. On m'a parlé de ça il y a pas longtemps.
C'est la réalité.
Et c'est l'enfer. Ouais. En plus, c'est les pompes funèbres, donc c'est la mort et tout. Donc donc on est dans un, oui, on est dans des, on a envie de gratter là où ça fait mal et d'être dans de l'humour, alors qui est pas méprisant. Hein. Nous, on n'aime pas ça. On aime bien être avec nos personnages, mais de parler de choses, d'avoir un rire grinçant, quoi, pour exorciser un peu, voilà, ce qui va pas bien, quoi.
Vous qui avez beaucoup d'imagination avec Franck Magnier, tout ce que vous écrivez, tout ce que vous pensez, ça passe par l'image. Vous ne pourriez pas écrire un roman, par exemple? Parce que tous les sujets dont tu nous parles, ça pourrait faire des très beaux romans.
Moi, je... Non, je crois pas. Non. Enfin, en fait, moi, je porte tellement haut les choses que pour moi, un romancier, c'est... Et en fait, je ne me sens pas capable, non. Peut-être, ouais. Après, effectivement, moi, j'aime bien passer par l'image ou par les situations.
Même quand tu décris le gâteau, la femme, là, tu nous ouais. fais les gestes, c'est marrant.
Ouais, en fait, ouais. Donc du coup, écrire un roman, je sais pas, mais oui, souvent on pense à une situation, effectivement. Ouais.
Tu as accompagné ton ami Franck Magnier dans l'écriture de son one man show, Mes années Colt, en 2010, mais il était lui seul en scène. J'ai noté qu'en 20 ans de collaboration, c'était la seule aventure que l'un faisait sans l'autre. Alors, est-ce que tu peux imaginer, envisager toi aussi t'affranchir de
mais
la
c'est
collaboration
des, mais c'est déjà
avec
le cas.
Franck Magnier?
C'est déjà
pour les prochains projets?
Non, c'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que moi, j'aime bien... Là, par exemple, j'ai écrit un scénario avec un jeune réalisateur qui est aussi un peu scénariste, mais pas trop, justement. Et donc, Franck est au courant de cette infidélité. je fais ça le soir, c'est comme si j'avais pas assez de boulot. Je fais ça le soir. Ouais. Et parce que j'aime bien aussi... je sais pas, soit transmettre ce que je connais ou me frotter, être sûr que ce que je sais va bien passer auprès de quelqu'un d'autre. Et voilà, j'aime bien ça. Donc en ce moment, j'écris un truc avec qui va se faire, j'espère. Enfin, il y a un producteur et tout. Voilà, c'est l'histoire d'une. J'espère qu'il va pas m'en vouloir, mais. De déflorer le truc. C'est une petite vieille dans le Nord. Lui est du Nord, donc en fait, il connaît très très bien. C'est une petite vieille dans le Nord qui... Son mari meurt et en fait, elle découvre, juste après les obsèques, qu'en fait, pour la mettre à l'abri, c'est quelqu'un de très modeste, pour la mettre à l'abri, il avait contracté deux prêts à la consommation et puis il voulait boursicoter. Et puis, il est mort depuis. Et puis ça,
il a tout perdu.
Il a tout perdu. Et donc, il y a les types de CTLM, ou l'équivalent, évidemment, il faudra trouver un autre nom, qui lui disent, vous avez 100 000 euros à rembourser, et voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'elle elle va demander à... Alors, on ne sait pas si on aura l'acteur, mais en tout cas, ce sera l'équivalent de cet acteur. Elle va demander à Patrick Bruel de la coacher pour gagner tout ce qu'elle a perdu au poker. Donc ça va être la rencontre entre deux mondes qui ne devraient absolument pas se rencontrer. Et je suis assez content, c'est assez joli, c'est pas du tout de la grosse comédie, c'est assez mignon en fait.
T'es tendre.
Ouais.
C'est marrant parce qu'à chaque fois que tu nous parles d'une comédie, le sujet à la base n'a pas l'air drôle.
Ben, non,
les comptes funèbres, la mort, le chômage.
Mais moi, je pense que les bonnes comédies, c'est pas des. C'est, ça
on parlait être... de cynisme avec Charlie Hebdo, j'étais pas loin.
Non, c'est-à-dire que les comédies, pour moi, ça pourrait être. Ça pourrait être des bons drames, en fait. Et d'ailleurs, pour les têtes de l'emploi, je vous racontais tout à l'heure qu'on avait fait une. C'était à Lille, on avait fait une rencontre, et il y a un agent de Pôle emploi qui nous a dit « C'est pas du tout drôle, votre film. » Et j'étais pas très bien, quoi. Et je lui ai dit « Monsieur, c'est pas un documentaire, c'est pas... » C'était assez difficile. Et il y a quelqu'un qui nous a dit « Votre film, pour moi, c'est pas une comédie, c'est un drame rigolo. Ouais. » Et en fait, j'aime bien l'idée. Alors ça, c'est super. Alors, là, la distribution, ceux qui s'occupent du marketing, ils détestent ça. C'est-à-dire que si vous leur dites « Écoutez, notre film, je pense que c'est un drame rigolo. » Ils nous disent « Ah non, on peut pas le vendre. » Ah non, ça c'est horrible, faut pas, un drame rigolo. Moi je suis super content quand il m'a dit ça, j'étais ravi. Mais avant, non, c'est une comédie. Parce que les gens, il faut qu'ils se déplacent en masse dans les salles. Si vous dites que c'est un drame rigolo, là, tout le monde va partir, va pas vouloir y aller, et voilà.
Président Malaisé, dans la fosse, est-ce que quelqu'un veut poser des questions
allez-y.
À votre invité?
On est tout bien, on a du temps, alors on y va.
Sur... Ou quelqu'un veut chanter une chanson?
Non, je chante pas, moi. Moi, c'était par rapport à votre métier de scénariste. Vous en avez parlé, vous en aviez marre que quand vous êtes fait réalisateur, que vos scénarios étaient des fois pas respectés, enfin, ou du moins vous ne le retrouviez pas dans le film. À l'inverse, est-ce que du coup, en tant que scénariste, des fois au moment du tournage ou pendant la préparation du tournage, est-ce qu'on vous contacte pour vous demander votre avis, vous demander des changements? Enfin, est-ce que vous êtes partie prenante ou est-ce qu'une fois que le scénario est écrit, c'est fini, vous avez perdu le contrôle et c'est plus votre bébé, quoi?
Quand on réalise?
Alors, non, quand vous êtes scénariste, votre rôle continue après l'écriture ou c'est fini, quoi?
Non, quand on est scénariste, au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on a... On n'est plus dans la partie, quoi. Parce que c'est aussi... Après, je pense que pour certains auteurs, ils demandent à toujours être avec le scénariste. Moi, après, le truc, c'est que... par exemple, pour les têtes de l'emploi, par exemple, on a fait des modifs jusqu'à la fin. Mais des modifs, ce n'était pas des modifs structurels. Hein. C'était des modifs parce qu'on faisait des répétitions avec les acteurs, donc on modifiait le dialogue et tout. Mais pour moi, une fois que c'est fini... Une fois que le tournage commence, quoi, faut arrêter, quoi. Moi, je sais, hein, j'en ai lu des trucs sur les mecs qui réécrivaient la veille pour le lendemain et tout ça, d'accord. Mais ça, c'est quand vous avez du budget, quand vous pouvez tourner je ne sais pas combien de semaines. Les têtes de l'emploi, c'était 6 semaines. Donc, moins que ça, c'était un téléfilm. Donc, fallait... Vous ne changez pas le scénario. Nous, à chaque fois qu'on a été scénariste, oui, c'est ça qui peut être frustrant. En même temps, c'est pas forcément très frustrant. Moi, j'ai pas vraiment le bon à part Astérix, mais là, le producteur, c'est un fou, le fils de Claude Berry, Thomas Langman, il est tellement fou que il a tout changé. Mais par exemple pour une affaire d'État. On n'a pas été sur le tournage, on n'a pas fait tout ça. Mais on savait que Valette. Respecterait le scénario parce que c'est à un moment donné c'est pas du hasard non plus, quoi. Faut quand même qu'on se repose sur quelque chose, donc si on doit le modifier, c'est avant et quand la préparation du film se termine après. Donc c'est pas tellement cette frustration là que j'ai, en fait. La frustration, c'est pour Lucky Luke par exemple, pour des choses comme ça, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assemblée avant que l'entretien ne touche à sa fin? Merci en tous les cas. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, Alexandre, de ta disponibilité, tu mérites bien des applaudissements du public en folie.
Merci à vous.
Et de nous avoir accordé ton presque temps dominical. Alors, merci au Théâtre de la Comédie, évidemment, pour l'accueil. Merci à Vincent, tous les membres de l'association Corée 49. Félicitations pour tout ce que vous faites. Merci à Johan pour la technique là-bas, en lumière. Vincent, le mot de la fin. Alexandre, le mot de la fin. Les amis.
Moi, je n'ai pas grand-chose forcément à dire. Moi, simplement merci. Ouais. Quand on dit merci, ça suffit. Juste merci, Alexandre, des deux.
C'est vrai. Alexandre ?
Moi je suis ravi, je suis content. J'espère que vous avez, je sais pas si vous avez appris des trucs, mais
ouais.
Voilà,
c'est vrai. Et on se quittait. Alexandre fait un joli cadeau parce qu'il est venu avec le bêtisier du film Les Têtes de l'emploi dont on
a vu. Je savais pas.
Dans ta poche là, on a été chercher. Regardez.
On travaille à Pôle emploi. On travaille à l'agence pour l'emploi. On est
Paris. Ça me rappelle les trucs de tournage, mais par exemple, le coup de la porte, c'était en fin de journée, c'était tout con. Hein. Elle ouvrait la porte et lui disait « je te dérange ». Et puis il entrait quand même, parce qu'il est un peu bourru, tout ça. Donc c'est pas compliqué, quoi. On était en fin de journée, normalement, en une heure et demie, c'est fait, quoi. Et on a perdu un temps fou, parce qu'ils n'y arrivaient pas, quoi. C'était la fin de journée, en fait. Donc des fois, il y a des trucs très simples qui peuvent prendre beaucoup, beaucoup de temps.
Merci beaucoup de tes confidences et bon week-end à tous.